Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y avait une personne ici qui... On ne peut pas trouver une personne plus jeune que cette personne, en âge. Vous voyez qui c'est ou pas? Qui? Pierre-Louis. Donc, c'est dommage parce qu'il est déjà parti, mais je voulais vraiment, vraiment dire un grand merci au Seigneur pour la naissance de Pierre-Louis. Et vraiment, c'est une joie quand un enfant naît. Et nous voulons vraiment maintenant être à l'écoute de cette parole, qui est la parole de Dieu, et nous laisser toucher, transformer par lui. Dimanche prochain, nous commençons notre mois, vous l'avez entendu, qui s'appelle... Vous êtes timide ou... Maman, c'est moi le timide et c'est vous qui... J'aime... Vous aimez votre ville? Vous aimez Dieu? Normalement, c'est oui, si vous êtes là en tout cas. Et est-ce que vous aimez votre ville? Ouais. Ok. Nous croyons fermement, mais vraiment fermement, qu'aimer Dieu, c'est aussi aimer notre ville. Pas dans le sens de l'aimer parce qu'elle est belle. Il y a des beaux jardins, les maisons sont tellement belles. Puis c'est pas cher. On l'aimerait si elle était comme ça, n'est-ce pas? Non, c'est pas dans ce sens-là. Pas dans le sens de l'aimer parce qu'elle est belle ou parce que les gens sont gentils. Partout où on va, les gens nous sourient. Non. Aimer sa ville, c'est en fait aimer les gens où nous sommes. C'est aimer les gens que Dieu a mis sur notre chemin, non par hasard, mais pour un but. Aimer notre ville, aimer ma ville, implique à la fois que je la serve, mais aussi que je prie pour elle, et enfin que je vive et partage ma foi. D'accord? Donc le message est fini, vous avez tout compris. Servir ma ville, prier pour elle, partager ma foi. Nous voulons vraiment que ce mois soit un temps de renouvellement et d'encouragement qui nous pousse davantage à partager notre foi à ceux qui ne connaissent pas encore Dieu. Ce n'est pas l'affaire de professionnels. Tu es évangéliste, tu as ce ministère, donc tu évangélises. Nous, on est chrétiens, mais ce n'est pas notre ministère. Nous, on n'évangélise pas. Ça, c'est pas du tout biblique, hein. Vous êtes d'accord avec moi? C'est vrai que c'est un ministère, mais c'est aussi à nous d'être chrétiens, de vivre pleinement notre foi là où nous sommes. Et combien de gens sont venus à Christ au-delà du ministère d'évangéliste? Si je demandais qui sont les personnes qui ont donné leur vie à Christ par le biais de quelqu'un, sans que ce soit un évangéliste. On est plusieurs. Bon, heureusement. Donc si on comptait sur les évangélistes, c'est un peu chaud, quoi. Hein? Donc ça fait partie. Les enfants de Dieu aussi ont cette responsabilité de partager leur foi. Alors voici trois choses que je crois que Dieu veut nous dire ce matin. La première chose, c'est aimer notre ville, c'est avoir le cœur de Dieu. Aimer notre ville, c'est avoir le cœur de Dieu. Deuxièmement, aimer notre ville, c'est être une bénédiction en vivant pleinement notre foi. Et troisièmement, aimer notre ville, c'est prier pour elle et les autorités afin que tout le monde soit sauvé. Trois choses. Allons-y, c'est parti. Aimer notre ville, c'est avoir le cœur de Dieu. Luc nous rapporte ceci dans son évangile au chapitre 19, verset 41. Quand il fut arrivé tout près de la ville, ça parle de Jésus, il l'embrassa du regard et pleura sur elle. Ah, dit-il, si seulement tu avais compris toi aussi en ce jour de quoi dépend ta paix. Mais hélas, à présent,
Tout cela est caché à tes yeux. Des jours de malheur vont fondre sur toi. Tes ennemis t'entoureront d'ouvrages, de sièges. T'encercleront, pardon, et te presseront de tous côtés. Ils te détruiront complètement, toi et les habitants qui seront dans tes murs. Ils ne laisseront pas chez toi une pierre sur une autre. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas su reconnaître le moment où Dieu est venu pour toi. Waouh ! Il est rare de voir un homme pleurer, n'est-ce pas ? Surtout en public. Jésus pleure sur sa ville, Jérusalem, parce que sa ville ne reconnaît pas, ne le reconnaît pas comme étant l'envoyé de Dieu. Ce qui lui arrache des larmes, c'est le contraste trop fort entre l'offre magnifique de Dieu, sa bonté, et de l'autre côté, la réponse si faible de Jérusalem, qui en fait ne le reconnaît même pas comme étant l'envoyé de Dieu. Nous devons être conscients ce matin que Dieu aime notre ville. Jésus a pleuré sur sa ville. Nous est-il arrivé de pleurer sur notre ville? Tellement nous voulons que Dieu agisse dans la vie des gens. Quand je pose cette question, je suis sérieusement repris. Pas vous? Est-ce que je pleure sur ma ville? Aimer notre ville, c'est avoir le cœur de Dieu. Parce que Dieu aime nos villes. Il aime les gens et veut agir puissamment pour leur bien et le salut de tous, pas de quelques-uns. Mes amis, que Dieu nous communique son amour, son cœur, son fardeau pour la ville dans laquelle nous sommes pour aimer notre ville comme Dieu l'aime. Deuxièmement, aimer notre ville, c'est être une bénédiction en vivant pleinement notre foi. Dans Jérémie 29, je vais lire les versets 14 à 12, il est écrit « Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël, à tous les exilés que j'ai fait déporter de Jérusalem à Babylone. Construisez des maisons, installez-vous-y, plantez des jardins et mangez-en les fruits. Mariez-vous et ayez des enfants. Mariez vos fils et donnez vos filles en mariage et qu'elles aient des enfants. Multipliez-vous là-bas et ne laissez pas diminuer votre nombre. Recherchez la prospérité de la ville où je vous ai déporté et priez l'Éternel en sa faveur, car sa prospérité dépend la vôtre. Car voici ce que déclare le Seigneur des armées, Dieu d'Israël, ne vous laissez pas induire en erreur par vos prophètes qui sont au milieu de vous, ni par vos devins, et ne prêtez pas attention aux révélations que vous leur demanderez, car ce sont des mensonges qu'ils prophétisent en mon nom. Je ne les ai pas envoyés, l'Éternel le déclare. Là, il y a un beau texte. Car voici ce que déclare l'Éternel. C'est seulement au bout de 70 années, bon, ça fait un peu long, allouées à Babylone, que j'interviendrai en votre faveur pour accomplir la promesse que je vous ai faite de vous faire revenir dans ce pays. Et qu'est-ce qui est dit après? Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Alors vous m'invoquerez et vous viendrez m'adresser vos prières et je vous exaucerai. Waouh ! Le chapitre 29 est une lettre du prophète Jérémie au peuple d'Israël exilé. Il faut comprendre le contexte, c'est important. Les enfants d'Israël vivaient désormais à Babylone. Ils sont esclaves à cause de leur année de rébellion contre Dieu. C'est ça le problème. De plus, le pays de leur captivité était un haut lieu de religion où il y avait un tas de dieux. Ce n'est pas l'endroit idéal pour un peuple mis à part par Dieu et pour Dieu, n'est-ce pas ? C'était un pays corrompu, un désert moral et spirituel. En plus, les prêtres et les prophètes issus des enfants d'Israël ne cessent de les entraîner plus loin de Dieu. Donc ça n'aide pas non plus. Dans le peuple d'Israël, les uns sont découragés, tandis que les autres sont optimistes, pensant que la fin de l'épreuve va bientôt arriver. Ça va bientôt finir tout ça. Enfin, l'épreuve va bientôt finir, c'est ça que je veux dire. Mais ils se laissent tous aller au mépris de l'effort. Le prophète Jérémie reçoit de Dieu l'ordre d'intervenir. Il ne peut pas le faire oralement. Alors il le fait par une lettre. Il dit au peuple d'Israël, ne renoncez pas à bâtir des maisons, sous prétexte que vous devez les quitter bientôt. Plantez des jardins, sans vous laisser arrêter par la pensée que vous n'en mangerez peut-être pas les fruits. Ayez des enfants sans vous dire que leur existence sera incertaine, fragile, instable. Il ne faut pas renoncer à tout sous prétexte d'une délivrance proche. Le prophète va encore plus loin. Il ne s'agit pas seulement de tenir pendant l'épreuve. Il faut gagner. Le peuple de Dieu doit viser à devenir plus fort, numériquement, mais aussi moralement. La pensée du messager de Dieu s'élève cependant encore plus haut. Et là, on arrive à ce fameux verset 7, qui comporte des paroles très étonnantes. Alors que le peuple d'Israël est exilé, Dieu lui demande de rechercher la paix, le bien-être de la ville dans laquelle ils ont été amenés captifs. En fait, l'Éternel demande à son peuple, à Babylone, de changer sa manière de voir les choses. S'il avait jusqu'ici considéré les Babyloniens comme leurs pires ennemis, l'Éternel leur demande d'arrêter de penser ainsi. Ça devait être bizarre et très difficile pour ce peuple de comprendre une telle recommandation. Ça ressemble aux paroles de Jésus. Aimez vos... Vous suivez, j'aime ça. Aimez vos ennemis. Dieu est en train de dire à son peuple, pendant que vous attendez le jour, le moment où j'aurai créé une nouvelle situation, vivez pleinement le moment présent. Portez du fruit autant que possible. Voilà un enseignement très fort pour nous tous, les amis. Beaucoup d'entre nous s'imaginent de ne rien devoir faire en attendant le retour de Christ, par exemple. De toute façon, ça ira de pire en pire, donc on attend, quoi. Puis de toute façon, Christ reviendra et puis tout changera. Oui, peut-être. Mais on a une responsabilité. D'autres encore attendent que Dieu agisse tout simplement et intervienne dans leur situation à eux ou dans la situation de leur ville, alors que bien des choses peuvent être accomplies pendant ce temps par eux-mêmes. Le problème est que nous sommes trop concernés en fait par notre propre avenir, trop concernés par notre propre bien-être. Lorsque notre vie dérape, nous sommes tentés de ne voir que nous-mêmes dans la détresse. Nous ne voyons plus les autres. Je ne l'ai pas écrit dans mes notes, mais aussi le plaisir. Les plaisirs aussi peuvent nous pousser à oublier les autres. Et lorsque nous voyons plein de problèmes dans notre ville ou dans notre pays, nous sommes tentés de baisser les bras, de fermer les yeux, de ne plus regarder la réalité en face et de nous enfermer dans ce qui nous concerne à nous. J'ai fini mon boulot, je rentre dans ma maison, c'est fini, mes enfants, c'est mes affaires, les autres, j'en ai rien à faire. C'est beaucoup plus simple de vivre comme ça. Mais voici ce que Dieu veut nous dire et qu'on n'a pas envie d'entendre. Tandis que vous attendez mon intervention en votre faveur, impliquez-vous dans la vie des autres. pour leur bien. Voilà pourquoi Paul a écrit
« Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. » Actes chapitre 20.
Vous savez, toutes les fois que je dis « Sois béni », dans mes emails, dans les SMS, quand je le dis de vive voix, je vois des personnes qui rigolent. Ce n'est pas une formule que j'envoie comme ça au hasard. Voilà, ça fait pasteur, quoi, tu vois. Ça fait bon chrétien, tu vois. Non, ce n'est pas pour cela. Mais c'est parce que ma prière de chaque jour pour nous tous est que Dieu continue à nous bénir pour que nous soyons des bénédictions. Bénis pour être des bénédictions. C'est mon souhait et c'est ma prière pour nous tous. Être tellement bénis que nous ne pouvons pas rester là à garder tout ça pour nous. Et même sans dire « sois béni », tu es déjà béni en Christ. Tu le sais, j'espère. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Éphésiens 1. Lorsque nous devenons porteurs de bénédiction, jusque dans les maisons des autres, nous créons un canal à travers lequel Dieu pourra déverser le flot de ses bénédictions dans notre vie. Oui, dans notre vie. Et dans celle des autres. Ça va dans les deux sens, c'est bizarre, mais il faut comprendre ça comme ça. Parce que nous, on pense qu'on est béni quand on s'occupe que de nous. Mais en fait, ce n'est pas du tout le message de la Bible. C'est quand on bénit les autres que nous sommes le plus... Vous avez tout compris. Un jour, quelqu'un a dit ceci. « Monsieur le pasteur, 100 sauterelles seront plus efficaces pour gagner votre ville à Christ que 1000 membres s'ils ne font que chauffer de leur derrière les chaises de votre église. » C'est très clair. Hein? Mes amis, notre but en tant qu'église n'est pas de s'entretenir entre chrétiens. Si c'est ce que vous pensez, ce n'est pas du tout biblique. Notre but en tant qu'église est d'être des bénédictions pour les autres. C'est pour cela qu'il écrit sur... Et je le répète, sur notre vision en tant qu'Église, grandir ensemble pour... Vous ne connaissez pas le slogan de l'Église ? Grandir ensemble pour le bien des autres. Grandir ensemble pour le bien des autres. Grandir ensemble pour être des bénédictions pour notre ville, pour notre voisinage, pour notre entourage. Un jour, un automobiliste est en train de rouler en ville, suivi de près par une autre voiture dont la conductrice est visiblement très pressée. Arrivé à un croisement de rue, il voit le feu tricolore passer à l'orange et s'empresse de s'arrêter, provoquant la fureur de la conductrice. Elle écrase son klaxon de son poing, abaisse la vitre pour injurier le pauvre homme et lui adresse des gestes obscènes. Toute absorbée par son cirque, elle ne remarque pas la présence de quelqu'un près de sa portière. Soudain, elle se rend compte qu'un policier attire son attention. Il lui demande de sortir de son véhicule et l'emmène jusqu'au poste de police, jusque-là, où elle est fouillée. Waouh ! Qu'est-ce qu'elle a fait ? Où l'on prend ses empreintes digitales. Waouh ! Avant de l'enfermer dans une cellule en attendant qu'elle se calme. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'était... Il n'y avait pas besoin de tout ça. 2 heures plus tard, elle est relâchée et l'officier de police, tout en lui rendant ses affaires personnelles, lui explique. Et là, écoutez un peu l'explication. « Je suis vraiment désolé, madame, pour cette méprise, mais voyez-vous, lorsque je me suis arrêté derrière votre voiture alors que vous klaxonniez, à qui mieux ? Tout en insultant l'automobiliste devant vous, j'ai remarqué le poster « Suivez Jésus » collé à votre pare-brise. Et l'autocollante « Choisissez la vraie vie ».
à votre plaque d'immatriculation et l'autre invitant les gens à vous suivre à l'église dimanche prochain. Sans compter le signe de paix qui orne votre coffre. J'en ai donc déduit, en insultant comme ça, que vous êtes quelqu'un qui a vous avez volé la voiture. À l'évidence, ce policier suivait une chrétienne qui ne faisait pas honneur à son maître. L'histoire est un peu forte là quand même, hein. Mais Jésus nous dit quoi? Jésus nous dit quoi? Que votre lumière brille aux yeux. C'est pas, t'arrives devant quelqu'un et tu lui dis Jésus-Christ est Seigneur et il faut que tu te convertisses, tout ça. Bam! C'est pas cela qui amène les gens à Christ, qui pousse les gens à donner leur vie à Christ. Que votre lumière brille aux yeux des hommes, afin qu'ils voient le bien que vous faites, et qu'ils louent votre Père. Ça veut dire que ça, c'est même pas, ah ouais, Manu, c'est vraiment, oh, il fait trop du bien. C'est, non, la louange, elle va pas sur moi, elle va pas sur vous, elle va sur notre Père. C'est pas pour notre gloire. Aimer notre ville, c'est être une bénédiction en vivant pleinement notre foi. Vous savez, partager notre foi aux autres par notre vie a un impact tellement fort. Tellement fort. Personnellement, j'étais constamment en lutte concernant le partage de ma foi aux autres. Je me posais plusieurs questions. Comment arriver à parler de Dieu à tous ces gens qui ne veulent rien entendre sur Dieu? Comment faire face à ma timidité, à mes peurs, quand j'approche l'autre? Parce que dans ma tête, je me dis, à quel moment je vais pouvoir lui dire que Dieu l'aime? Et forcément, pendant que je me dis ça, ça ajoute un stress dans la relation. Et en plus, inutilement. Et pourtant, j'ai ces peurs, ces craintes, j'ai tout ça dans mon cœur et en même temps, je suis convaincu que j'appartiens à Dieu. Et je suis convaincu que ce que j'ai, il n'y a pas plus immense cadeau que je puisse offrir à quelqu'un que Jésus-Christ. Et je me rappelle de ce jour où tout a changé. Et c'était, j'étais peut-être encore en stage ici à Ozoir, ou peut-être j'avais commencé en tant que pasteur. Et moi, j'avais beaucoup de mal, parce que je disais, moi, je rencontre pratiquement que des chrétiens en tant que pasteur. Et les non-chrétiens, les personnes qui ne connaissent pas Dieu, je les rencontre, mais très vite, c'est assez difficile pour moi de passer du temps avec eux. Je dis, Seigneur, mais il faut que je trouve une solution. Et Dieu m'a montré ce jour-là l'importance de donner de mon temps aux autres. Juste ça. Ce jour-là, je quittais mon bureau et je restais attentif à ce que Dieu voulait que je fasse. Ça, c'est important, d'apprendre à écouter Dieu. Je suis allé dire bonjour à des personnes que j'avais l'habitude de voir, mais cette fois-ci, je n'avais pas l'objectif de leur parler de Dieu, mais je les aimais. Mon but, c'était simplement de leur donner de mon temps. Et j'étais surpris de voir la joie que cela, non seulement pour procurer aux autres, mais aussi à moi. Plus de joie à donner qu'à recevoir. Les gens ont tellement soif d'attention, tellement soif de se sentir aimé, valorisé. Les gens courent, mais quand ils ont des gens qui savent s'arrêter, cela est vraiment touchant. Mais ce qui m'a le plus surpris, c'est que je n'ai jamais autant parlé de Dieu que le jour où j'ai commencé à donner de mon temps aux autres, à aimer les gens et à affirmer pleinement ma foi avec joie. Je suis ce que je suis et je suis fier d'être enfant de Dieu et je vis pleinement ma foi. Bien sûr, ce n'est pas automatique, hein, et les gens ne nous amènent pas tout de suite sur le terrain de la foi, mais combien il est important de construire des relations avec les gens, des relations d'amitié qui auront un jour un impact dans leur vie. À quel point on s'investit dans la vie des gens? À quel point nous sommes des bénédictions pour eux? Aujourd'hui, soyons convaincus que la ville où Dieu nous a placés, c'est pour un but: être des bénédictions pour les autres. Le travail où Dieu nous a placés, c'est pour être des bénédictions pour les autres. Tous les gens que Dieu met sur notre route, c'est aussi pour que nous soyons des bénédictions pour les autres. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous en êtes convaincu? Cela est tellement important de dire oui. Au lieu de nous morfondre dans l'attente que notre situation changera, ou de regarder qu'à nous-mêmes, ou d'attendre que notre ville change ou que notre pays change, mettons-nous à semer dans la vie des gens l'évangile en les aimant. Troisièmement, aimer notre ville, c'est prier pour elle et les autorités afin que tout le monde soit sauvé. Je relis le verset 7 dans Jérémie. « Recherchez la prospérité de la ville où je vous ai déporté et priez l'Éternel, car de sa prospérité dépend la vôtre. » Et une promesse émouvante est celle du verset 11 que nous avons lu aussi. « Car moi je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel, ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. » Dieu savait très bien que s'il disait simplement, il parlait simplement de la ville, la prospérité de la ville, son peuple allait être peut-être découragé, mais il leur a donné une promesse. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour ta ville. Il y a de l'espoir pour les gens. Il y a de l'espoir pour ton pays. Il y a de l'espoir pour toi, pour ta famille. Et donc Dieu veut qu'on prie pour notre ville, le cœur rempli d'espoir, rempli d'espérance, car nous savons et nous en sommes convaincus que Dieu a des projets de paix et non de malheur. Un avenir plein d'espérance pour qui met sa confiance en lui. Un autre texte nous aide à comprendre ce que Dieu attend de nous concernant notre ville dans 1 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 4. Je recommande en tout premier lieu que l'on adresse à Dieu des demandes, des prières, des supplications et des remerciements pour tous les hommes. Que l'on prie pour les rois et pour tous ceux qui sont au pouvoir, afin que nous puissions mener à l'abri de toute violence et dans la paix une vie qui exprime dans tous ses aspects notre attachement à Dieu et qui commande le respect. Voilà ce qui est bien devant Dieu, notre Sauveur, ce qu'il approuve. Car, voilà le but, il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Tout le texte a pour but ce petit verset. Je ne sais pas si un jour, moi, j'ai été repris, je regardais les nouvelles, et puis le Seigneur m'a repris, me montrant que, Manu, tu regardes les nouvelles, tu vois que les gens souffrent, tu vois que ceci, que cela, tu fermes le poste de télévision, ou la radio, ceci ou cela, et puis tu ne pries pas. Et tu ne pries pas. Ce n'est que des nouvelles. Puis on en discute au boulot. Ah ouais, c'est dur ce qui se passe là-bas. Mais il n'y a aucune prière que tu n'as adressée à Dieu concernant tel pays, tel pays, tel pays. Priez. Priez pour tous les hommes. C'est au-delà des limites de nos préoccupations. Il y a des gens, quand vous les voyez peut-être, vous préférez aller sur l'autre trottoir. N'est-ce pas ? On est tous les mêmes, hein. N'ayez pas peur de dire oui. Il y a des gens, on n'osera même pas prier pour eux, parce que c'est une autre catégorie de personnes. Ce n'est pas dans notre champ de personnes. C'est vrai ? C'est vrai. Dieu veut qu'on prie pour tous les hommes, au-delà des limites que nous pouvons nous mettre. Alors ne laissons pas nos prières se limiter à un groupe de personnes. Notre amour doit s'étendre dans la prière. Que nos prières embrassent toutes sortes de personnes. Que nos prières aillent au-delà des différences, au-delà des âges, des cultures, des classes sociales, etc. Notre cœur doit grandir jusqu'à ce qu'il embrasse tout le monde.
Nous devons prier avec un amour ardent pour tous les hommes et toutes les femmes qui ont tant besoin de Jésus-Christ. Il faut aussi prier pour les autorités. Voilà quelque chose que je pense que nous faisons souvent. Je rigole. Non, que nous ne faisons pas souvent. Est-ce que vous priez vraiment régulièrement pour les autorités? Parce que le texte qu'on voit ici, on voit cela comme quelque chose de très important là. C'est pas rien. Vous voyez le but, hein? Ce n'est pas simplement prier pour eux. Le but, c'est l'annonce de l'évangile. C'est le salut des gens. C'est cela. Prier pour les autorités. Pourtant, Paul parle de ce sujet comme un sujet important. Et pour nous, ce n'est pas si important. Et je pense que si nous avons du mal à prier pour les dirigeants, c'est parce qu'ils ne tiennent pas toujours parole. Parce qu'ils ne font pas toujours ce que nous aimerions qu'ils fassent. Mais aussi parce que nous sommes des professionnels, les amis, pour les critiquer, pour dire du mal d'eux, et voire pour les insulter. Professionnels. Si ce n'est pas nous, c'est les autres, et quand on les écoute, on ne leur dit pas non. C'est grave. Parce que ce que je pense, c'est que si nous avons du mal à prier pour les dirigeants, c'est parce que nous n'avons pas d'amour pour les dirigeants. Pour le bien de notre ville et de notre pays, si nous voulons que les choses changent, ce n'est pas en passant notre temps à critiquer les autorités. Ce n'est pas en passant notre temps à parler mal d'eux, mais plutôt à prier pour eux. Je n'enlève pas notre responsabilité de dire ce que nous pensons. Mais nous devons prier, prier et prier pour nos autorités. Prions pour elles, parce que Dieu peut les sauver. Est-ce que tu le crois? Il n'y a aucun amen. Dieu, grand comme il est, il peut toucher leur cœur. Prions parce que Dieu peut les amener à la connaissance de la vérité. Mais s'ils ne viennent pas à Dieu, prions quand même pour eux. Parce que Dieu peut les utiliser pour accomplir ses desseins, qu'ils croient ou non en lui. On lit tout l'Ancien Testament et on est le premier à dire que, oui, bien sûr, Dieu conduit toute l'histoire, malgré toutes sortes d'autorités. Et quand le texte a été écrit, je peux vous dire que les autorités... Je pense que les chrétiens, quand ils ont vu ce qui était écrit là, de la part de l'apôtre Paul, ils ont dit, mais t'es complètement malade. Parce que le gars là qui est au pouvoir, il en veut vraiment aux chrétiens, c'est un dangereux quoi. Le but de nos prières, c'est la paix et la tranquillité pour l'avancement de l'annonce de l'évangile. Et si on veut voir cela, il faut prier pour tous les hommes et il faut prier pour les autorités. Ça ne se passera pas autrement que comme cela. C'est la Bible qui le dit. Le but de nos prières, c'est cela, pour que tout le monde soit sauvé. Il est tellement important de prier pour les dirigeants de notre pays et de notre ville, parce que les conditions qu'ils créent peuvent faire avancer ou entraver l'annonce de l'Évangile. Et pour ceux qui connaissent ce qui se passe dans les pays où les chrétiens sont persécutés, ça commence souvent par les autorités. Aimer notre ville, c'est prier pour elle et les autorités, afin que tout le monde soit sauvé. J'aimerais conclure. Aimer notre ville, c'est aimer avec le cœur de Dieu, aimer comme Dieu aime. Deuxièmement, c'est être une bénédiction en vivant pleinement notre foi. Et troisièmement, c'est prier pour elle, prier pour notre ville et les autorités, afin que tout le monde soit sauvé. Et tout cela dans la dépendance du Seigneur, rempli du Saint-Esprit, touché par sa grâce. J'aimerais que nous prenions un temps de silence maintenant, dans la présence de Dieu, pour répondre à son appel. J'aimerais vous inviter à dire oui à Dieu, maintenant, concernant son appel à être des bénédictions là où vous êtes. Peut-être que vous pensez à des gens, des voisins, des collègues de travail, des gens, quand vous les voyez, vous avez vraiment envie de ne même pas parler avec eux. Dieu veut que vous soyez des bénédictions pour ces personnes. Dites oui devant Dieu maintenant. Si vous le désirez, dites oui à son appel. Pour faire ce pas de dire maintenant, je vais être une bénédiction pour ma ville. Je vous invite à prendre ces décisions en levant votre main avec moi. Je ne la lève pas pour montrer comment il faut faire. Je la lève parce que moi, je prends cette décision ce matin. Pour ceux qui veulent prendre ces décisions maintenant, Seigneur, je dis oui, je veux être une bénédiction pour les autres. Dieu notre Père, pardon pour notre manque d'amour pour notre ville, pour les gens que nous côtoyons chaque jour. Pardon de ne pas donner de notre temps aux autres, de ne pas communiquer ton amour à tous. Dieu notre Père, continue ton œuvre en nous pour que nous t'aimions toujours plus. Transmets-nous ton amour et ton fardeau pour la ville dans laquelle tu nous as placés, pour les gens que tu as mis sur notre chemin. Que notre vie soit toujours marquée par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Que notre amour pour toi ne cesse de grandir pour que nous soyons des bénédictions partout où nous sommes. Que nous ne cessions pas de prier pour notre ville, pour les gens et pour nos autorités, afin que tu sois toujours plus proclamé, respecté, aimé, adoré. Père, nous t'en supplions. Continue ton œuvre pour qu'au travers de ton Église ici à Ozoir, des milliers et des milliers de personnes se tournent vers toi pour la gloire de ton nom et pour notre joie à tous. Amen.